Souvenir, troisième partie, jeunesse, chapitre 55. Je suis grand. Le 16 avril, j'entrais pour la première fois, chaperonné par Saint-Jérôme, dans la grande salle de l'université. Le 8 mai, en revenant du dernier examen, je trouvai à la maison le coupeur de Rosanoff. Il était déjà venu une fois m'essayer une tunique en drap noir, lustré et brillant, mais ce n'était alors que faux filet, et il avait corrigé les revers à la craie. Aujourd'hui, il me rapportait mon uniforme entièrement terminé, ses beaux boutons d'or enveloppés dans du papier. Je le revêtis et le trouvai magnifique, bien que Saint-Jérôme m'assura que la tunique faisait des plis dans le dos. Je descendis chez Volodia sans pouvoir empêcher un sourire suffisant de s'étaler sur ma figure. Je sentais les regards des domestiques qui me dévoraient des yeux de l'antichambre et du corridor, mais je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. Gavrilo, le maître d'hôtel, courut après moi dans la salle, me fit son compliment et me remit de la part de papa 4 assignats blancs. Il ajouta, toujours de la part de papa, qu'à dater de ce jour, le cocher Kouzma serait à mes ordres, ainsi que le drotchki et le cheval bai. Ce bonheur presque inattendu me causa une telle joie qu'il me fut impossible de conserver devant Gavrilo un air indifférent. Je me troublai, je perdis la respiration, et je répondis la première chose qui me passa par la tête, que le bai était un bon trotteur ou quelque chose dans ce genre. Jetant ensuite un coup d'œil sur les têtes qui apparaissaient aux portes de l'antichambre et du corridor, je fus incapable de me contenir plus longtemps et traversai la salle en courant avec ma tunique neuve et mes beaux boutons d'or. Au moment où j'entrais chez Volodia, j'entendis derrière moi les voix de Dubkov et de Nekliudov. Ils venaient me féliciter et nous proposer d'aller dîner quelque part et d'arroser mon succès avec du champagne. Dmitri me dit qu'il n'aimait pas à prendre du champagne, mais qu'il viendrait ce soir-là avec nous, pour boire à notre tutoiement. Dubkov prétendit que j'avais l'air d'un colonel. Volodia ne me fit aucun compliment, et se contenta de dire très sèchement que nous pourrions partir le surlendemain pour la campagne. Je crois que, tout en se réjouissant de ce que j'étais reçu, il lui était désagréable que je fusse devenu un grand comme lui. Saint-Jérôme vint aussi nous rejoindre et déclara avec emphase que sa tâche était terminée, qu'il ignorait s'il s'en était bien ou mal acquitté, mais qu'il avait fait de son mieux. Il ajouta qu'il s'en irait le lendemain chez son compte. Je sentais qu'à tout ce qu'on me disait, un sourire de satisfaction passablement niais s'épanouissait sur ma figure, et je remarquai que ce même sourire se communiquait à tous ceux qui me parlaient. Je n'ai plus de gouverneur, j'ai mon drotchki à moi, mon nom va être imprimé dans les listes d'étudiants, j'ai une épée, les sergents de ville pourront me faire l'honneur de... Bref, je suis grand, donc heureux. Nous décidâmes de dîner à 5 heures chez Yar. Volodia s'en alla chez Dubkov. Dmitri disparut, selon son habitude, en disant qu'il avait quelque chose à faire avant le dîner. Je me trouvai de la sorte à avoir 2 heures à employer à ma fantaisie. Je passai un certain temps à me promener dans toutes les chambres, en me regardant dans toutes les glaces, tantôt boutonné, tantôt déboutonné, tantôt en ne mettant que le bouton d'en haut de ma tunique. Je me trouvais superbe de toutes les façons. Ensuite, malgré ma crainte d'avoir l'air trop content, je ne pus y tenir et me rendis à l'écurie et à la remise pour regarder le bai, le drotchki et Kouzma. Après quoi je remontai et me remis à me promener de chambre en chambre en me regardant dans les glaces, toujours avec le même sourire de bonheur, et en comptant mon argent dans ma poche. Cependant, il ne s'était pas écoulé 1 heure que je commençais à m'ennuyer, ou plutôt à regretter que personne ne me vît dans ma splendeur. Je sentais un besoin de remuer et d'agir. Je donnai l'ordre d'atteler le droshky et je décidai que le mieux serait d'aller faire des emplettes au pont Kounetsky. Je me rappelais que lorsque Volodia avait été reçu à l'université, il s'était acheté une lithographie des chevaux de Victor Adam, une pipe et du tabac. Il me paraissait indispensable de faire de même. Je partis en voiture pour le pont Kounetsky. Mes boutons étincelaient au soleil, ma cocarde et mon chapeau reluisaient, mon épée brillait, tout le monde me regardait. Je me fis arrêter devant le magasin de tableaux de Daziaro et j'entrai, en jetant des coups d'œil autour de moi. Je ne voulais pas acheter les chevaux d'Adam, de peur qu'on ne pût me reprocher de singer Volodia. Tout honteux de déranger le commis, je choisis à la hâte une gouache représentant une tête de femme qui se trouvait à l'étalage. Je la payai 20 roubles. Néanmoins, je continuais à être honteux d'avoir dérangé deux beaux commis si bien mis pour une pareille misère, d'autant que de leur côté, ils paraissaient ne pas avoir grande considération pour moi. Désireux de leur faire sentir à qui ils avaient affaire, je tournai mon attention vers un objet en argent placé dans une vitrine, et ayant appris que c'était un porte-crayon et que cela coûtait 18 roubles, je les priai d'envelopper l'objet dans du papier et je payai. J'appris encore d'eux qu'on trouvait de bonnes pipes et du tabac dans le magasin à côté, sur quoi je saluai poliment les deux commis et je sortis, ma gouache sous le bras. La boutique voisine avait pour enseigne un nègre fumant un cigare. Toujours afin de n'imiter personne, au lieu d'une pipe ordinaire, j'achetai une pipe turque, du tabac turc et deux chibouks, l'un au tilleul, l'autre à la rose. En sortant du magasin pour remonter en voiture, j'aperçus Semenov qui avait passé avec moi et qui devait entrer dans la même faculté. Il était en civil et marchait vite, la tête baissée. Je fus vexé de ce qu'il ne me reconnaissait pas. Je dis assez haut à Kouzma, « Avance !» Montez dans le droshky et rattrapez Semenov. « Bonjour !» lui dis-je. « Je vous salue !» répliqua-t-il sans s'arrêter. « Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme ?» Semenov s'arrêta, cligna des yeux et montra ses dents blanches, comme un homme à qui le soleil fait mal aux yeux. En réalité, c'était pour montrer que mon droshky et mon uniforme lui étaient indifférents. Il me regarda sans mot dire et poursuivit sa route. Du pont Kouznetsky, je me rendis chez un confiseur du boulevard Tverskoe, où je feignis de ne m'intéresser qu'aux journaux. Mais j'eus beau faire, je ne pus y résister, et me mis à avaler gâteau sur gâteau. J'avais honte à cause d'un monsieur qui me regardait avec curiosité de derrière son journal. Mais cela ne m'empêcha pas d'engloutir, avec une rapidité extraordinaire, un gâteau de chaque espèce. Cela me fit 8 gâteaux. En rentrant à la maison, je me sentis l'estomac un peu chargé, mais je n'y fis aucune attention et me mis à examiner mes acquisitions. La gouache me déplut tellement qu'au lieu de la mettre dans un cadre et de l'accrocher dans ma chambre, comme Volodia, je la cachai soigneusement dans ma commode, à un endroit où personne ne pouvait la voir. Le porte-crayon me déplut aussi. Je le posai sur la table, en me consolant avec la pensée que c'était de l'argent, par conséquent un objet ayant sa valeur, et très utile, du reste, pour un étudiant. Quant aux ustensiles destinés à fumer, je résolus d'en faire l'essai sur le champ. J'ouvris le paquet, bourrai soigneusement la pipe turque avec le tabac turc, roussâtre et fin, posai sur le tabac un morceau d'amadou allumé, pris le tuyau entre le troisième et le quatrième doigt. Cette position de la main me plaisait tout particulièrement, et me mis à aspirer la fumée. L'odeur du tabac était très agréable, mais j'avais un goût amer dans la bouche et de la peine à respirer. Pourtant, je tins bon et je fumai assez longtemps, m'exerçant à faire des ronds. La chambre ne tarda pas à se remplir d'un nuage bleuâtre. La pipe commença à crépiter et le tabac brûlant à sauter. J'avais la bouche pleine d'amertume et la tête me tournait un peu. Je résolus de m'arrêter. Je voulais seulement me regarder dans la glace avec ma pipe. À ma grande surprise, je chancelai. La chambre tournait en rond et quand je fus arrivée, non sans peine, jusqu'à la glace, je vis que j'étais pâle comme un linge. À peine eus-je le temps de me jeter sur le divan, que je ressentis un tel mal de cœur et une si grande faiblesse que je me figurai que le tabac était un poison pour moi. Je crus que j'allais mourir. J'avais vraiment peur, et je me préparais à appeler au secours et à envoyer chercher le médecin. Ma frayeur ne dura pas longtemps. Je ne tardai pas à comprendre de quoi il s'agissait, et je restai longtemps couché sur le divan, dans un état de prostration et avec un mal de tête horrible. Je considérai stupidement les armes gravées sur l'enveloppe du paquet de tabac, la pipe tombée sur le plancher, les débris des gâteaux mangés chez le confiseur. J'étais mélancolique et je pensais, dans mon désenchantement, apparemment, je ne suis pas encore tout à fait grand, puisque je ne peux pas fumer comme les autres. Le sort ne veut évidemment pas que je tienne ma pipe comme les autres, entre le troisième et le quatrième doigt, et que j'envoie de la fumée à travers des moustaches rousses. Dimitri me trouva dans cette situation désagréable lorsqu'il vint me chercher à 5 heures. Cependant, après avoir avalé un verre d'eau, je me trouvais à peu près remis et prêt à partir avec lui. « Quelle idée de fumer !» dit-il en regardant les conséquences de ma fumerie. « C'est une sottise et une perte d'argent inutile. Je me suis juré de ne jamais fumer. Mais dépêchons-nous, il faut encore que nous allions chercher Dubkov. » Chapitre 56. À quoi s'occupaient Volodia et Dubkov? Il me suffit de voir entrer Dmitri pour deviner qu'il n'était pas de bonne humeur. Quand il était mécontent de lui, il devenait de glace, et cela se lisait sur sa figure, dans sa démarche, et dans une manière à lui de cligner les yeux et de s'étirer la tête en côté, comme pour arranger sa cravate. Sa froideur réagissait alors invariablement sur mes sentiments à son égard. Dans les derniers temps, j'avais commencé à analyser et à juger le caractère de mon ami, mais notre amitié ne s'en était pas ressentie. Elle était encore si jeune et si vigoureuse qu'il m'était impossible, sous quelque aspect que j'envisageasse Dmitri, de ne pas le trouver parfait. Il y avait en lui deux hommes différents, que j'admirais également. L'un de ces hommes, que j'aimais passionnément, était bon, doux, caressant, gai, et savait combien il était aimable. Quand Dmitri était cet homme-là, toute sa personne, tous ses mouvements et jusqu'au son de sa voix disaient « Je suis bon et vertueux, j'en jouis et je jouis de ce que vous tous pouvez le voir. » L'autre Dmitri, que je commençais seulement à connaître, et devant la noblesse de qui je m'inclinais, était froid, sévère pour lui et pour les autres, orgueilleux, religieux jusqu'au fanatisme et d'une vertu pédante. Il était en ce moment cet autre homme. Dès que nous fûmes en voiture, je lui dis, avec la franchise qui était la condition indispensable de notre liaison, qu'il m'était triste et pénible, un jour où j'étais si heureux, de le voir dans une disposition d'esprit qui m'était si fâcheuse. « Je suis sûre que quelque chose vous a troublé. Pourquoi ne me le dites-vous pas ? » demandai-je. « Nicolas, » répondit-il sans se hâter, en étirant nerveusement sa tête et en clignant des yeux. « Si je vous ai donné ma parole de ne rien vous cacher, Vous n'avez pas le droit de me soupçonner de cachotterie. Il est impossible d'être toujours le même. Et si quelque chose m'a troublé, je ne sais pas moi-même quoi. » Quelle nature franche et droite, pensais-je, et je ne lui parlais plus. Nous arrivâmes sans rien dire chez Dubkov. L'appartement de Dubkov était, ou me paraissait, une merveille de beauté. Partout des tapis, des tableaux, des rideaux, des tentures aux couleurs vives, des portraits, des fauteuils arrondis, des Voltaire. Sur les murs, des armes, des pistolets, des blagues à tabac et des têtes d'animaux sauvages en carton. En voyant le cabinet, je compris sur qui Volodia copiait l'arrangement de sa chambre. Nous trouvâmes Dubkov et Volodia occupés à jouer aux cartes. Un monsieur inconnu, à son attitude modeste, il devait être sans importance, était assis auprès de la table et suivait attentivement le jeu. Dubkov avait une robe de chambre de soie et des pantoufles. Volodia avait ôté sa tunique et était assis en face de lui sur le divan. On voyait, à son visage enflammé et au regard rapide qu'il nous jeta, que le jeu l'absorbait. En m'apercevant, il devint encore plus rouge. « À toi de donner, » dit-il à Dubkov. Je devinais qu'il lui était désagréable que je susse qu'il jouait. Toutefois, sa physionomie n'exprimait point l'embarras. Elle disait « Eh bien, oui, je joue. Cela ne t'étonne que parce que tu es encore jeune. À notre âge, non seulement ça n'est pas mal, mais c'est indispensable. » Je lus immédiatement tout cela sur sa figure. Dubkov ne donna pourtant pas les cartes. Il se leva, nous serra la main, nous fit asseoir et nous offrit des pipes que nous refusâmes. « Voilà donc notre diplomate en triomphateur, » dit-il. « C'est étonnant comme il ressemble à un colonel. » Je fis entendre un son inarticulé. Je sentais revenir mon sourire niais. Je respectais Dubkov comme on respecte un adjudant de 27 ans quand on est soi-même un gamin de 16 ans et qu'on entend dire aux grandes personnes « que c'est un jeune homme très comme il faut, dansant très bien et sachant parler français. Et quand ce jeune homme, très comme il faut, tout en méprisant dans son âme vos 16 ans, s'efforce de le cacher. Tout mon respect n'empêchait pourtant pas que je n'ai jamais pu, tant qu'a duré notre connaissance, regarder Dubkov en face sans être mal à mon aise. Dieu sait pourquoi. J'ai remarqué depuis qu'il y avait 3 sortes de gens qu'il m'était impossible de regarder en face sans malaise. Ceux qui valaient beaucoup moins que moi, ceux qui valaient beaucoup mieux, et ceux avec lesquels on n'ose pas se dire une chose qu'on sait tous les deux. Dubkov valait peut-être mieux que moi, et il valait peut-être moins, mais je crois plutôt que l'impression dont je parle venait de ce qu'il mentait très souvent et n'en convenait pas. Naturellement, je n'osais pas le lui dire. Faisons encore un marqué, dit Volodia en agitant son épaule avec le même tic que papa et en mêlant les cartes. Il y tient, fit Dubkov. Nous finirons plus tard. Après tout, allons, encore un. Pendant qu'ils jouaient, j'observais leurs mains. Celles de Volodia étaient grandes et belles. En tenant ses cartes, il écartait et recourbait ses doigts juste comme papa. Leurs mains se ressemblaient alors tellement que je me demandais un instant si Volodia ne le faisait pas exprès pour ressembler à une grande personne. Mais il me suffit de regarder sa figure pour voir qu'il ne pensait absolument qu'au jeu. Dubkov avait au contraire les mains petites, bouffies, rondes, molles et remarquablement adroites. Juste la sorte de main à porter des bagues et qu'ont les personnes aimant les jolies choses et les travaux d'adresse. Volodia devait perdre, car le monsieur, en regardant ses cartes, fit la remarque que Vladimir Petrovitch avait une mauvaise chance épouvantable, et Dubkov, tirant son portefeuille, y écrivit quelque chose qu'il montra à Volodia en disant « C'est bien cela ?»« C'est bien cela. » dit Volodia en affectant un air dégagé. « Et maintenant, partons. » Volodia prit Dubkov dans sa voiture. Je montai dans le phaéton de Dmitri. « À quoi est-ce qu'il jouait ?» demandai-je à Dmitri. « Au piqué. C'est un sot jeu, comme tous les jeux du reste. » « Est-ce qu'il joue fort jeu ?»« Non, mais c'est mal tout de même. »«
Vous ne jouez pas ?»«
Non, j'ai donné ma parole de ne pas jouer. » »« Dubkov, lui, ne peut pas se passer de ses gains. »«
Ce n'est pas bien, » dis-je.
« Volodia joue sans doute moins bien que lui. »«
Ce n'est certainement pas bien, mais ce n'est pas non plus très mal. »« Dubkov aime le jeu et joue bien. » Cela ne l'empêche pas d'être un charmant garçon.
Je ne croyais pas du tout. Il est impossible de penser aucun mal de lui, car c'est réellement un charmant garçon. Je l'aime beaucoup, et je l'aimerai toujours, malgré son défaut.
J'eus l'impression que Dmitri défendait Dubkov avec une chaleur exagérée, précisément parce qu'il ne l'aimait ni ne l'estimait, mais qu'il ne voulait pas l'avouer. En partie par entêtement, en partie pour qu'on ne pût pas l'accuser d'inconstance. Dmitri était un de ces hommes qui restent fidèles toute la vie à leurs amis, moins parce qu'ils les en trouvent toujours dignes que parce que, lorsqu'une fois ils ont donné leur amitié à un homme, même à tort, ils ne jugent pas loyal de la lui retirer.
Chapitre 57 Où l'on me félicite. Dubkov et Volodia connaissaient tout le personnel de Yar par son nom, et tout le personnel, depuis le Suisse jusqu'au patron, leur témoignait une grande considération. On nous donna sur le champ un cabinet particulier, et on nous servit un dîner mirifique, commandé par Dubkov d'après une carte en français. La bouteille de champagne frappée était préparée, et je m'efforçais de la regarder d'un air indifférent. Le dîner fut très gai et très agréable, bien que Dubkov nous racontât, selon son habitude, les histoires les plus extraordinaires. Après tout, elles étaient peut-être vraies. Il nous raconta, entre autres, que sa grand-mère, ayant été attaquée par 3 voleurs, les avait tués à coups de mousqueton. À cette histoire, je rougis, baissai les yeux et me détournai. Volodia, de son côté, était visiblement inquiet chaque fois que j'ouvrais la bouche. Il avait tort. Autant que je m'en souviens, je n'ai rien dit ce soir-là de particulièrement sot. Lorsqu'on servit le champagne, tout le monde me félicita. Dubkov et Dmitri trinquèrent avec moi à notre futur tutoiement. Et m'embrassèrent. Ne sachant pas qui payait le champagne, on m'expliqua plus tard que nous en payions chacun notre part. Et voulant régaler mes amis avec mon propre argent, que je tâtais à chaque instant dans ma poche, je tirai doucement un billet de 10 roubles, appelai le garçon, et lui dis à demi-voix, mais de façon que tous les autres, qui me regardaient en silence, m'entendissent. « Encore une demi-bouteille de champagne, s'il vous plaît. » Volodia rougit, fut pris de son tic dans l'épaule et nous jeta à tous des regards si effarés que je vis ma faute, ce qui n'empêche que nous bûmes la demi-bouteille avec beaucoup de plaisir. Le dîner continua très gaiement. Dubkov blaguait sans interruption et Volodia racontait aussi des farces et les racontait si bien que jamais je ne l'aurais cru de lui. Nous rîmes beaucoup. Leur comique consistait à imiter, en forçant la note, l'anecdote bien connue. « Êtes-vous allé à l'étranger ?»«
Non, mais mon frère joue du violon. »
Ils avaient poussé le genre à la perfection de l'absurde. Par exemple, dans l'anecdote que je viens de citer, le second répondait « Non, mais mon frère n'a jamais joué du violon. » À chaque question, il se renvoyait des répliques en ce genre.
même sans question, il s'attachait à associer deux idées tout à fait disparates, débitait ses non-sens d'un ton sérieux, et c'était très drôle. Je commençais à saisir le procédé, et je voulus aussi raconter quelque chose de drôle, mais les autres eurent l'air embarrassés tandis que je parlais. Ils détournèrent les yeux, et mon histoire ne sortit pas. Dubkov déclara que le diplomate divaguait. Mais le champagne et la société des grands m'avaient mis dans un état si agréable que je ressentis à peine cette remarque. Le seul Dmitri ne se déridait pas, bien qu'il eût bu autant que nous, et son air rébarbatif comprimait un peu la gaieté générale. « Écoutez, messieurs, dit Dubkov, après dîner, il faut nous charger du diplomate. Emmenons-le chez la tante. » « Nekhliudov ne voudra pas venir, » dit Volodia. « Tu es insupportable avec ta bonasserie. Tu es insupportable, » fit Dubkov en s'adressant à Dmitri. « Allons ensemble. Tu verras quelle excellente dame est la tante. » « Non seulement je n'irai pas, mais je lui défends d'y aller, » répondit Dmitri en rougissant.
« À qui ? Au diplomate ?
Tu veux bien, toi, diplomate ? Regarde sa figure, il s'est épanoui dès qu'on a parlé de la tante. »
Je ne lui défends pas, poursuivit Dmitri en se levant et en marchant de long en large sans me regarder. Mais je l'engage à ne pas y aller, je l'en prie. Ce n'est plus un enfant, et s'il en a envie, il peut y aller seul, sans vous. Tu devrais avoir honte, Dubkov, parce que tu fais mal, tu voudrais entraîner les autres.
Qu'y a-t-il de mal ? Dit Dubkov en faisant signe de l'œil à Volodia. « À vous inviter tous à venir prendre une tasse de thé chez la tante. Si cela te déplaît, tu n'as qu'à ne pas venir. J'irai avec Volodia. Tu viens, Volodia ?»«
fit Volodia d'un ton affirmatif.
« Allons, et en revenant, nous irons chez moi finir notre piquet. »«
Voyons, veux-tu aller avec eux, oui ou non ?»
dit Dmitri en s'approchant de moi.
« Non, » répliquai-je en me poussant sur le divan pour lui faire place. « Je n'en ai pas envie. Et quand même tu ne me le déconseillerais pas, je n'irai pas. »
Il s'assit auprès de moi et j'ajoutai tout bas.
« Non, je n'ai pas dit la vérité. J'ai envie d'aller avec eux. Mais je suis content de ne pas le faire. »«
C'est parfait, » dit-il. « Vis à ta guise et ne te laisse mener par personne. » Cela vaut mieux que tout.
Non seulement cette petite dispute ne troubla pas notre plaisir, mais elle y contribua. Dmitri devint tout à coup bon enfant, comme j'aimais tant à le voir. J'ai remarqué depuis, bien des fois, que telle était sur lui l'influence d'une bonne conscience. Il était content de lui de m'avoir sauvé, et il s'anima tout à fait. Il commanda encore une bouteille de champagne. C'était contraire à ses principes. Invita un monsieur qui passait et se mit à le faire boire, chanta le Gaudeamus igitur en nous disant de faire le cœur et proposa d'aller se promener en voiture à Sokolnik, sur quoi Dubkov fit la remarque que c'était trop sentimental.
« Amusons-nous, » dit Dmitri en souriant. « Je me suis grisé en son honneur pour la première fois de ma vie. »
Ce genre de gaieté n'allait pas très bien à Dmitri. Il avait l'air d'un précepteur ou d'un bon père de famille qui, étant content des enfants, fait une partie pour les amuser et pour leur montrer en même temps qu'on peut s'amuser honnêtement. Néanmoins, son animation inattendue nous gagnait tous, d'autant plus que nous avions bu chacun près d'une demi-bouteille de champagne. Ce fut dans cette disposition agréable que je sortis avec les autres pour fumer une cigarette que m'avait donnée Dubkov. Au moment où je me levais, je remarquai que la tête me tournait un peu. Mes pieds ne marchaient pas et mes mains n'étaient dans une position normale que lorsque je faisais bien attention. Sinon, mes pieds allaient de côté et d'autre, et mes mains gesticulaient. Je concentrais toute mon attention sur mes membres
et j'ordonnai à mes mains de se soulever pour boutonner ma tunique et arranger mes cheveux, ce qu'elles exécutèrent, mais en levant les coudes à une hauteur extraordinaire. J'ordonnai ensuite à mes pieds de me conduire à la porte, et ils obéirent. Mais tantôt ils frappaient lourdement le plancher, tantôt ils posaient à peine. Le gauche, surtout, se tenait toujours sur la pointe. Une voix me cria « Où vas-tu ? On apporte de la lumière !» Je devinai que cette voix était celle de Volodia, et je me sus gré de l'avoir devinée, mais je souris pour toute réponse et poursuivis ma route. Chapitre 58. Je me prépare à faire des visites. Le lendemain était notre dernier jour à Moscou, et j'étais obligé de faire des visites. Papa me l'avait ordonné, et il avait inscrit lui-même les visites à faire sur un morceau de papier. Notre père s'inquiétait beaucoup moins de notre éducation et de notre direction morale que de nos relations mondaines. Il avait mis sur le morceau de papier, de son écriture rapide et saccadée, premièrement, chez le prince Ivan Ivanovitch, indispensable. Deuxièmement, chez les Ivines, indispensable. Troisièmement, chez le prince Mikhaïl. Quatrièmement, chez la princesse Nekliudov et Madame Valakine, si tu as le temps. Venaient ensuite le recteur et les professeurs. Mais Dmitri m'assura que ces dernières visites étaient plus qu'inutiles. Il fallait faire toutes les autres dans la journée, et les deux premières, celles où il y avait « indispensable », m'intimidaient tout particulièrement. Le prince Ivan Ivanovitch avait été général en chef. Il était vieux, riche et seul. Les relations entre lui et un étudiant de 16 ans ne pouvaient rien avoir de flatteur pour l'étudiant, et j'en avais le pressentiment. Les Ivines étaient aussi des gens riches, et ils avaient pour père un gros bonnet de fonctionnaire qui était venu une fois en tout chez nous, du temps de grand-mère. Depuis la mort de grand-mère, j'avais remarqué que le plus jeune des Ivines nous évitait et prenait de grands airs. Je savais par oui dire que l'aîné avait fini son droit et était entré dans l'administration à Saint-Pétersbourg. Le second, Serge, mon ancienne idole, devenu grand et gros, était aussi à Pétersbourg, cadet dans le corps des pages. Dans ma jeunesse, non seulement je n'aimais pas avoir les gens qui se considéraient comme au-dessus de moi, mais ce m'était un vrai supplice, parce que j'étais dans une crainte perpétuelle de recevoir un affront et que j'avais sans cesse l'esprit tendu vers un même objet, affirmer vis-à-vis d'eux mon indépendance. Toutefois, du moment où je supprimais la fin du programme de papa, il s'agissait d'atténuer ma faute en exécutant la première partie. J'allais et venais par la chambre en contemplant mon uniforme, mon chapeau et mon épée posés sur des chaises, et je faisais mes préparatifs pour sortir, lorsque je reçus la visite du vieux Grappe et d'Iline. Il venait me féliciter. Le père Grappe était un Allemand russifié, doucereux et complimenteur à en être insupportable, très souvent ivre. La plupart du temps, il venait chez nous parce qu'il avait quelque chose à demander, et papa l'invitait quelquefois à s'asseoir dans son cabinet, mais on ne l'aurait jamais fait dîner avec nous. Tout rampant et quémandeur qu'il fût, cela se mélangeait d'une certaine bonhomie apparente, et il était tellement un habitué de la maison qu'on lui tenait compte de l'attachement qu'on lui supposait pour nous tous. Malgré tout, je ne sais pourquoi, je ne l'aimais pas, et quand il parlait, j'avais toujours honte pour lui. L'arrivée de cette visite me contraria vivement, et je ne cherchais pas à le dissimuler. Iline avait été reçue en même temps que moi. J'étais si accoutumé à le regarder de mon haut, et il était si accoutumé à penser que c'était mon droit, qu'il m'était un peu désagréable de le voir étudiant tout comme moi. Il me sembla que lui-même se sentait gêné de cette égalité. Je lui dis bonjour froidement et donnai l'ordre d'atteler sans les inviter à s'asseoir, car il me semblait qu'il pourrait bien s'asseoir tout seul. Iline était un bon et brave garçon, point du tout sot, mais il avait ce qu'on appelle un grain. Il était toujours, sans cause aucune, dans des états violents, tantôt pleurnichant, tantôt riant à propos de tout, tantôt se froissant de tout. En ce moment, c'était cette dernière disposition qui prévalait. Il nous disait rien, nous regardait, son père et moi, d'un air furieux, et se contentait, quand on lui parlait, de sourire de son sourire humble et contraint. Il était déjà habitué à cacher sous ce sourire tous ses sentiments, en particulier la honte que lui inspirait son père et qu'il ne pouvait pas ne pas éprouver devant nous.
« Comme ça, Nicolas Petrovitch, » dit le vieux en me suivant dans la chambre pendant que je m'habillais et en tournant lentement entre ses gros doigts, avec une nuance de respect, la tabatière d'argent que lui avait donnée ma grand-mère.
« Dès que j'ai appris par mon fils comme vous aviez passé brillamment,
tout le monde sait votre intelligence,
je suis accouru vous faire mon compliment, mon petit père. Je vous ai porté sur mon dos dans le temps, et Dieu sait que je vous aime tous comme si vous étiez ma famille. Et voilà mon Iline, il demande toujours à venir chez vous. Lui aussi, il est habitué à vous. »
Pendant ce discours, Iline s'était assis sur la fenêtre et avait l'air de contempler mon tricorne, mais il marmottait quelque chose entre ses dents d'un ton irrité.
« Je voulais aussi vous demander, Nicolas Petrovitch, » poursuivit le vieux, « si mon Iline a bien passé, et il dit qu'il sera avec vous. Comme ça, vous ne l'abandonnerez pas, vous le surveillerez, vous lui donnerez des conseils. »
« Il a parfaitement passé, » répliquai-je en regardant Iline, qui sentit mon regard et cessa de remuer les lèvres.
« Est-ce qu'il pourrait passer la journée avec vous ?»
demanda le vieux avec un sourire timide, comme si je lui avais fait peur. Depuis qu'il était entré, quelque mouvement que je fisse, il ne me lâchait pas d'une semelle, de sorte que je n'avais pas cessé une seconde de respirer l'odeur de vin et de tabac dont il était toujours imprégné. J'étais dépité de ce qu'il me mettait dans une position fausse vis-à-vis de son fils. Je lui en voulais de me donner des distractions pendant une opération aussi importante que ma toilette. Par-dessus tout, cette odeur de boisson qui me poursuivait m'exaspérait. Le tout ensemble fit que je répondis très froidement qu'il m'était impossible de garder Iline parce que je serais absent toute la journée.
« Le petit père va sans doute voir sa petite sœur, »
dit Iline en souriant sans me regarder. « Du reste, moi aussi j'ai affaire. » J'étais de plus en plus dépité et contrarié. Pour tâcher d'adoucir mon refus, je me hâtai de leur expliquer que je ne serais pas à la maison parce que j'étais obligé d'aller chez le prince Ivan Ivanovitch, chez la princesse Kornakov, chez Ivine, celui qui a cette place si importante, et que je dînerais probablement chez la princesse Nekliudov. Il me semblait que lorsqu'il saurait chez quel grand personnage j'allais, il ne pourrait plus avoir de prétention sur moi. Lorsqu'ils se préparèrent à sortir, j'invitai Iline à venir une autre fois, mais il se contenta de faire entendre un son inarticulé en souriant de son sourire forcé. Il était visible qu'il ne mettrait plus jamais les pieds chez moi. Dès qu'ils furent partis, je montai en voiture pour faire mes visites. J'avais demandé le matin à Volodia de m'accompagner pour que je sois moins intimidée. Il avait refusé, sous prétexte que ce serait trop sentimental d'aller ensemble, deux frères, dans le même droshky.
Chapitre 59. Chez les Valakines. Je partis donc seule. La première visite, d'après le quartier, était Madame Valakine,
Il y avait 3 ans que je n'avais vu Sonia, et il va de soi que ma passion pour elle s'était évanouie, il y avait beau temps. Cependant, il m'en était resté un souvenir très vif, qui me causait encore de l'émotion. Il m'était arrivé, pendant ces 3 ans, de penser à elle avec tant de force et de me la représenter si nettement que j'en pleurais et que je redevenais amoureux. Toutefois, cela ne durait que quelques minutes et ne se produisait qu'à de longs intervalles. Je savais que Sonia et sa mère avaient passé 2 ans à l'étranger. On racontait qu'elles avaient versé en diligence, que Sonia avait eu la figure coupée par des éclats de verre et que cela l'avait beaucoup enlaidie. En me rendant chez elle, je me rappelais la Sonia d'autrefois et je me demandais comment j'allais la trouver. À cause des 2 ans à l'étranger, je me la représentais très grande, avec une taille superbe, un air sérieux et imposant, du reste extrêmement séduisante. Mon imagination se refusait à me la représenter avec un visage défiguré par des cicatrices. Tout au contraire, ayant entendu parler, je ne sais où, d'un amant passionné qui était resté fidèle à l'objet de son culte après que celui-ci eût été défiguré par la petite vérole, je m'efforçais de me persuader que j'étais amoureux de Sonia pour avoir le mérite de lui être fidèle en dépit de ses cicatrices. La vérité est qu'en arrivant chez les Valakine, je n'étais pas amoureux le moins du monde. Seulement, ayant remué tous ces vieux souvenirs, j'étais tout disposé à le redevenir, et je le souhaitais ardemment. Il y avait déjà longtemps que j'avais honte, en voyant tous mes amis amoureux, d'être si peu à leur hauteur. Les Valakine demeuraient dans une petite maison de bois, très propre, donnant sur une cour. Je sonnai. Les sonnettes étaient encore une grande rareté à Moscou. Et la porte me fut ouverte par un jeune domestique, tout petit, habillé proprement. Il ne sut ou ne voulut pas me dire si sa maîtresse était chez elle, et s'enfuit par un corridor noir, me laissant dans l'antichambre sombre. Je restai seul assez longtemps dans cette pièce obscure, sur laquelle donnait une porte fermée, sans compter la porte d'entrée et celle du corridor. Je m'étonnais un peu de la physionomie ténébreuse de la maison, mais je me disais, d'autre part, que cela devait être ainsi chez des gens ayant été à l'étranger. Au bout de 5 minutes, le même domestique ouvrit de l'intérieur la porte de la salle et me conduisit dans un salon modeste, mais propre. Presque au même instant, Sonia entra. Elle avait 17 ans. Elle était très petite, très maigre, jaune, et avec un air de mauvaise santé. On ne voyait pas trace de cicatrices sur son visage, et elle avait toujours les charmants yeux, un peu bombés, et le joli sourire, bon et gai, que j'avais connu et aimé dans notre enfance. Ne m'attendant pas du tout à la trouver ainsi, il me fut impossible, au premier moment, de déverser sur elle le sentiment que j'avais préparé en route. Elle me tendit la main à la mode anglaise, qui était alors une rareté, comme les sonnettes, me donna une franche poignée de main et me fit asseoir à côté d'elle sur le divan. « Que je suis donc contente de vous voir, mon cher Nicolas !» dit-elle en me regardant en face avec un air si sincèrement heureux que je ne surpris rien de protecteur dans le ton amical avec lequel elle prononça ces mots. « Mon cher Nicolas !» J'étais étonné de la retrouver encore plus simple, plus gentille et plus familière après un séjour à l'étranger. Je découvris 2 petites cicatrices, l'une près du nez, l'autre au sourcil, mais ses admirables yeux et son sourire étaient exactement comme dans mes souvenirs, et toujours aussi brillant. « Comme vous avez changé, » dit-elle, « vous voilà tout à fait grand. Et moi, me trouvez-vous très changé ?»«
Je ne vous aurais pas reconnu, » répondis-je, bien que je fusse justement en train de penser que je l'aurais toujours reconnu.
Je me sentais de nouveau dans cet état de gaieté insouciante où je m'étais trouvée 5 ans auparavant, en dansant le grand-père avec elle au bal de grand-mère. « J'ai beaucoup enlaidi, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle en secouant la tête.
« Mais non, pas du tout, »
me hâtai-je de répondre. « Vous avez un peu grandi, vous avez pris des années, mais au contraire, je trouve même... »
« Bon, cela ne fait rien. Vous rappelez-vous nos danses, nos jeux, et Saint-Jérôme, et Madame Dora ?»
Je n'avais pas connu de Madame Dora. Évidemment, elle était entraînée par le plaisir des souvenirs d'enfance, et elle confondait.
« Ah, quel bon temps » continua-t-elle avec son vieux sourire, encore plus joli que dans mes souvenirs, et son même regard lumineux.
Tandis qu'elle parlait, j'eus le temps de réfléchir à la situation où je me trouvais et de décider avec moi-même que j'étais amoureux. À peine eus-je pris cette résolution qu'à la minute même mon heureuse insouciance s'envola. Une sorte de brouillard me déroba la vue de tous les objets, même de ses yeux et de son sourire. Je me sentis honteux, je rougis et perdis la faculté de parler.
« Les temps sont changés, » poursuivit-elle en soupirant et en soulevant légèrement les sourcils. « Tout est devenu beaucoup plus mauvais. Et nous aussi, n'est-ce pas, Nicolas ?»
Je ne pus répondre et la regardai en silence.
« Que sont devenues les Ivines, les Kornakoff, vous vous les rappelez ?»
continua-t-elle en considérant avec une certaine curiosité mon visage empourpré et effrayé.
Ah, le bon temps!
Il m'était toujours impossible de répondre. L'entrée de Madame Valakhin me tira provisoirement de cette situation pénible. Je me levai, saluai et retrouvai la parole. En échange, Sonia se transforma soudain de la manière la plus étrange. Toute sa gaieté et sa familiarité s'évanouirent. Le sourire n'était plus le même. À la grande taille près, elle devint tout à coup la demoiselle retour de l'étranger que je m'étais figurée en venant. Cette métamorphose n'avait pas de raison d'être apparente, car sa mère avait conservé son sourire aimable et son air doux, qui paraissait dans ses moindres mouvements. Madame Valakhin s'assit dans un grand fauteuil et m'indiqua un siège auprès d'elle. Elle dit quelque chose en anglais à sa fille, et Sonia sortit aussitôt, ce qui acheva de me mettre à l'aise. Madame Valakhin me fit des questions sur mon frère, mon père, tous les miens, puis elle me parla de son chagrin, la perte de son mari. À la fin, voyant qu'il était impossible de causer avec moi, elle me regarda comme pour dire « Tu devrais te lever, faire ton salut et t'en aller ». « Ce serait une bien bonne idée, mon cher. » Mais il m'arrivait une chose singulière. Sonia était rentrée, un ouvrage d'aiguille à la main, et s'était assise à l'autre bout du salon. Je sentais ses yeux sur moi. D'autre part, pendant que Madame Valakhin me parlait de la mort de son mari, j'avais eu le temps de me rappeler que j'étais amoureux et de réfléchir que la mère s'en apercevait certainement. Tout cela combiné m'avait donné un nouvel accès de timidité, tellement violent que je me sentais hors d'état de faire un seul mouvement d'une façon naturelle. Je sentais que je serais obligé, pour me lever et sortir, de faire attention à l'endroit où je poserais le pied, à ce que je ferais de ma tête et de mes bras. En un mot, je me sentais presque comme la veille au soir, après avoir bu une demi-bouteille de champagne. L'instinct me disait que je ne saurais jamais m'en tirer et que je ne pourrais pas me lever. Et en effet, je ne pouvais pas me lever. Madame Valakhin était sans doute étonnée de mon visage cramoisi et de mon immobilité complète. Mais j'avais décidé que mieux valait rester assis dans cette situation stupide que de risquer de faire une maladresse en me levant et en sortant. Je restais donc assis, sans bouger, un temps assez long, attendant qu'un événement imprévu vînt me tirer de là. L'événement se présenta sous la forme d'un jeune homme, de pauvre mine, qui entra de l'air d'une personne de la maison et me salua poliment. Madame Valakine se leva, s'excusa en disant qu'elle avait à parler à son homme d'affaires, et me regarda d'un air perplexe qui voulait dire « S'il vous plaît de rester là 100 ans, je ne vous mets pas à la porte. » Je fis un effort désespéré et me levai. Mais il fut au-dessus de mes forces de saluer. Je me dirigeai vers la porte, suivi par les regards de compassion de la mère et de la fille, et dans ma préoccupation de ne pas me prendre les pieds dans le tapis, je me les pris dans une chaise, qui n'était pas du tout sur mon chemin. Une fois au grand air, lorsque je me fus secoué et que j'eus poussé un tel grognement que Kouzma me demanda plusieurs fois ce que je voulais, la crise se dissipa, et je me mis à réfléchir avec assez de calme à mon amour pour Sonia et aux relations entre la mère et la fille, qui me semblaient bizarres. Quand je racontai dans la suite à mon père que Madame Valakine et sa fille ne m'avaient pas paru très bien ensemble, il dit « Oui, elle tourmente cette pauvre petite avec son horrible avarice. C'est singulier !» ajouta-t-il avec plus d'émotion que n'en comportait une simple parente éloignée. « C'était une si charmante femme, aimable, originale. Je ne peux pas comprendre ce qui l'a changé à ce point. Tu n'as pas vu chez elle une espèce de secrétaire? Qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Une barine russe qui a un secrétaire » ajouta-t-il en s'éloignant de moi d'un air irrité. « Je l'ai vue, » répondis-je. « Eh bien, est-il joli garçon, au moins ?»« Non, il est très laid. »« C'est incompréhensible, » dit papa en secouant son épaule avec irritation et en toussaillant. « Me voilà amoureux, » pensai-je en continuant ma route dans mon droshky. Chapitre 60. Chez les Kornakov. La seconde visite se trouvait être les Kornakov. Ils occupaient le premier étage d'une grande maison. L'escalier était majestueux et bien tenu, mais point luxueux. Il y avait un tapis, proprement fixé par des tringles de cuivre brillantes, mais il n'y avait ni fleurs ni glace. La salle que je traversais pour entrer au salon avait un parquet bien ciré et était proprement meublé. Mais tout cela était triste et froid. Le mobilier, quoiqu'un peu vieux, était reluisant et d'aspect solide, mais on n'apercevait ni un tableau, ni un rideau, ni un ornement. Je trouvai au salon un certain nombre de jeunes princesses. Elles se tenaient si droites sur leurs chaises et avaient un tel air de cérémonie qu'on se disait en les apercevant « Elles ne se tiennent pas comme ça quand il n'y a pas de visite. »« Maman vient tout de suite, » me dit l'aînée en s'asseyant près de moi. Pendant un quart d'heure, elle m'entretint avec tant d'aisance et de tact que la conversation ne languit pas un instant. On sentait seulement trop que c'était un travail. Aussi, elle me déplut. Elle me raconta, entre autres choses, que leur frère Étienne, qu'on avait fait entrer 2 ans auparavant à l'école des sous-officiers nobles, était déjà officier. En parlant de son frère, et surtout en racontant qu'il s'était mis dans les hussards, malgré leur mère, elle fit une figure effrayée. Et toutes ses cadettes, assises en silence, firent la même figure effrayée. Elle parla de la mort de grand-mère et prit un air triste. Et toutes les jeunes princesses prirent le même air triste. Elle rappela le jour où j'avais frappé Saint-Jérôme et où l'on m'avait emmené, se mit à rire en montrant de vilaines dents, et toutes les sœurs se mirent à rire en montrant de vilaines dents. Leur mère entra. C'était toujours la même petite femme maigre, avec son regard fuyant qui se détournait de la personne à qui elle parlait. Elle me prit la main et haussa la sienne jusqu'à mes lèvres. L'idée de lui baiser la main ne me serait pas venue sans cela. Je ne trouvais pas que ce fût indispensable. « Que je suis contente de vous voir !» dit-elle de son ton bavard en jetant un coup d'œil sur ses filles.
« Comme il ressemble à sa maman, n'est-ce pas, Lise ?»
Lise répondit que c'était vrai. « Je savais parfaitement que je ne ressemblais pas le moins du monde à ma mère.
« Vous voilà tout à fait grand garçon. Et mon Étienne, vous vous le rappelez ? C'est votre cousin issu de Germain. Non, pas issu de Germain. Comment faut-il dire, Lise ?
Ma mère était Varvara Dmitrievna, fille de Dmitri Nikolaïevitch, et votre grand-mère était Nathalie Nikolaïevna.
Cela fait cousin au quatrième degré, maman, dit l'aînée des princesses.
« Tu embrouilles toujours tout !» lui cria aigrement sa mère. « Ce n'est pas du tout au quatrième degré. Lui et Étienne sont issus de Germain. Étienne est déjà officier, vous savez. Il est seulement fâcheux qu'on le laisse trop libre. Il faut tenir la jeunesse.
Vous n'en voulez pas à une vieille tante de vous dire la vérité.
Je tenais Étienne très sévèrement, et je trouve que c'est nécessaire. »
J'y suis. Voilà comment nous sommes parents. Le prince Ivan Ivanovitch est mon oncle, et il était l'oncle de votre mère. J'étais donc cousine germaine de votre maman, et non issue de Germain.
À propos, dites-moi, vous avez été chez le prince Ivan, mon ami ?
Je répondis que j'allais y aller.
Comment est-ce possible ? Cria-t-elle. Cela aurait dû être votre première visite. Vous savez que le prince Ivan est comme un père pour vous. Il n'a pas d'enfants. Ses seuls héritiers sont vous et mes enfants. Il faut le soigner à cause de son âge, de sa situation et de tout. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui ne tient pas compte des liens de famille et n'aime pas les personnes âgées. Mais croyez-en votre vieille tante qui vous aime et qui aimait votre maman. Votre grand-mère aussi, je l'aimais. J'avais beaucoup d'affection et de respect pour elle. Il faut absolument y aller, absolument.
Je dis que j'irai certainement et me levai. La visite me paraissait suffisamment longue et je fis mine de m'en aller, mais elle me retint.
Non, attendez une minute. Où est votre père, Lise ? Allez le chercher, il sera si content de vous voir.
Continua-t-elle en s'adressant à moi. Au bout de 2 minutes, le prince Mikhaïl entra. C'était un petit homme trapu, les vêtements extrêmement sales, la barbe pas faite, la physionomie presque stupide à force d'indifférence. Il ne fut pas le moins du monde content de me voir. En tout cas, il ne le montra pas. La princesse, dont on voyait qu'il avait grand-peur, lui dit
« N'est-ce pas que Valdemar... »
Elle avait oublié mon nom.
« Ressemble beaucoup à sa maman ?»
Elle accompagna ses paroles d'un tel signe des yeux que le prince, devinant ce qu'elle voulait, s'approcha de moi d'un air qui était tout le contraire d'enchanté et me tendit sa joue parasée qu'il me fallut embrasser.
« Tu n'es pas encore habillée et tu as à sortir !» poursuivit la princesse du ton aigre qui lui était évidemment habituel avec les personnes de la maison. « Tu veux donc encore les agacer ? Tu veux encore te les mettre à dos ?»«
On y va, petite mère !» dit le prince Mikhaïl, et il sortit. Je saluai et me retirai. C'était la première fois que j'entendais dire que nous étions les héritiers du prince Ivan Ivanovitch, et cette nouvelle m'avait produit un effet désagréable.